Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La musique est essentielle dans la culture populaire du monde arabe. La poésie, l'art vocal, le tarab, cette émotion qui naît d'un chant particulièrement mélodieux, tout concourt à placer la compréhension de la musique au cœur de la connaissance des cultures les plus anciennes et les plus contemporaines, de l'Irak à l'Andalousie, du cinéma égyptien à l'électropop aux accents politiques. Une exposition à la Philharmonie de Paris nous invite à découvrir les voix et musiques du monde arabe avec notre invité dont l'entretien a été réalisé diffusé en avril dernier à l'ouverture de l'exposition. Al-Moussika, la musique arabe, est encore visible à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août. Et nous en parlons avec Véronique Riffel, qui est commissaire de l'exposition. Bonjour madame.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes également critique d'art et programmatrice culturelle spécialisée dans les arts du Moyen-Orient et d'Afrique. Alors cette exposition à la Philharmonie de Paris, c'est jusqu'au 19 août, est-ce une exposition découverte, une exposition témoignage ou une exposition de soutien à ce qu'on pourrait appeler des chefs-d'œuvre en péril?
Alors c'est un petit peu tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'on a voulu faire une exposition accessible à tous, quel que soit son âge, quel que soit son degré de connaissance du monde arabe et des musiques du monde arabe et de manière générale. On a voulu vraiment aussi attirer l'attention sur un patrimoine musical en danger, notamment dans des zones de guerre actuellement, et puis sur l'intense créativité d'artistes qui, quel que soit le contexte géopolitique dans lequel ils vivent, créent des musiques qui s'appuient sur ce patrimoine et qui le renouvellent en permanence.
Quelle histoire et quel territoire, au pluriel, explorez-vous dans cette exposition ?
Alors c'est une exposition qui est assez ambitieuse dans son périmètre puisque elle concerne les 22 pays qui constituent le monde arabe et même un peu plus puisque on part aussi en Andalousie qui à l'époque médiévale.
On y reviendra tout à l'heure.
Qui bien sûr a été très important dans la création d'une musique arabo-andalouse très rayonnante. On passe beaucoup de temps finalement en France, par exemple dans un café de Barbès, puisque la France est un lieu aussi de création, d'écoute et de diffusion des musiques arabes. Donc c'est un périmètre assez large et c'est 16 siècles. Donc on part de la période pré-islamique jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une pérennité de la musique dans cette région à travers les âges ?
Oui, c'est pour ça qu'on a voulu remonter le fil de la période pré-islamique à aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une très grande diversité des pratiques musicales, mais en même temps, on retrouve cette même importance de la langue, le rythme de la langue, la beauté de la langue, la poésie. La langue arabe est une langue très poétique et ça se retrouve dans la musique. Et puis on retrouve, vous l'avez mentionné à très juste titre dans votre introduction, le tarab, cette intense émotion qui s'empare du public à l'écoute d'une musique et ce lien très particulier qui se crée entre l'interprète et l'auditoire. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une musique qui est dans le présent, qui est dans l'intensité du moment présent.
C'est-à-dire l'auditoire est à l'écoute. C'est ça la clé, c'est l'écoute de ce qui est en train de se passer par exemple sur une scène.
Oui, voilà, vous avez dit tout à l'heure effectivement qu'il n'y a pas de terme qui traduit vraiment le mot qu'on utilise en Occident de musique. Disons qu'il y en a plusieurs surtout, il y a le tarab dont on a parlé, il y a le saut, la voix, parce que c'est une musique qui accorde une très grande importance à la voix, et puis il y a le sama. Le sama, c'est savoir écouter, c'est apprendre à écouter, ça fait l'objet vraiment d'une étude, d'une attention. Et vous savez, dans la musique arabe, c'est moins le compositeur qui est important, comme dans notre musique occidentale, que l'interprète, que le public et que ce lien si particulier qui se crée entre eux.
Alors vous parlez des voix et justement il y a des voix dans le monde arabe qui sont absolument incroyables et qui sont connues pratiquement de tous.
Oui, alors peut-être que vous faites référence par exemple à Oum Kalsoum, la grande diva qui de son vivant était adulée, qui avait un effet sur le public avec sa voix incroyable. Les gens étaient vraiment en extase, en transe. On l'écoutait tous les premiers jeudis du mois, elle donnait un concert à la radio du Caire et la vie s'arrêtait, c'était comme un moment de prière collective où elle rassemblait tous les Égyptiens et au-delà l'ensemble du monde arabe. Donc elle a vraiment créé cette unité pan-arabe à travers sa musique et au-delà, puisque il y a ce fameux concert en 1967 à l'Olympia où elle a fait salle comble, et Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, le disait lui-même, il a jamais eu un concert avec un succès aussi intense et qui a terminé à 3h du matin avec des foules vraiment en liesse. C'était voilà, donc une grande voix comme celle de Oum Kalsoum. Mais ce qu'on a voulu montrer aussi dans l'exposition, c'est que c'était pas la seule. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à résumer les grandes voix de la musique arabe à des personnages forts comme ça, comme Oum Kalsoum, mais on découvre aussi d'autres personnages. Une femme que j'aime beaucoup aussi, qui avait une très très belle voix, Asmahan, qui est morte très jeune, qui était une femme d'une beauté incroyable, une princesse druze, la sœur de Farid al-Atrash, qui était lui-même aussi un grand musicien. Donc on découvre aussi tous ces personnages qui ont peut-être été un petit peu cachés par le côté un peu écrasant d'Oum Kalsoum.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Alors justement, Véronique Rieffel, comment avez-vous construit cette exposition à la Philharmonie de Paris?
Alors j'ai construit cette exposition comme un voyage. C'est une exposition qui a une dimension politique dans le sens où, dans le temps présent, où on parle toujours du monde arabe, enfin en tout cas très souvent d'une façon négative, on a voulu apporter et montrer les merveilles des cultures arabes. Donc c'est un voyage un peu merveilleux dans la création arabe, c'est-à-dire que c'est pas un voyage en Orient, c'est pas un voyage orientaliste, on voyage au cœur de la création arabe. Je dirais à peu près 95% des artistes qui sont présentés sont de culture arabe, vivant dans les pays arabes ou dans les diasporas. Voilà, c'est un voyage à la fois dans le temps, dans l'espace, et un voyage thématique. Donc on traverse des paysages immersifs, on traverse un désert, on traverse une ville arabe, on traverse un palais médiéval, une zaouïa, c'est ce lieu sacré en Afrique, un cinéma égyptien, un café de Barbès, et enfin la place trépidante d'une capitale arabe. Donc c'est vraiment une exposition qui est fondée sur la beauté, la sensation, se laisser porter, envoûter par ses musiques.
Donc c'est une exposition extrêmement visuelle,
oui.
Qui présente aussi des objets par exemple.
Oui, les musiques sont vraiment un thème récurrent des arts visuels de la création arabe. C'était le cas aussi dans l'orientalisme, on voit beaucoup de scènes de musique, des instruments, etc. Mais c'est aussi le cas dans la création arabe. Alors évidemment, on montre aussi des instruments de musique. Il y a un mur d'instruments où on a vraiment l'impression d'avoir devant nous des objets d'art, des sculptures. Ils sont vraiment merveilleux par la diversité de leurs formes, de leurs motifs. Et puis, on a des manuscrits anciens avec des enluminures très belles représentant des scènes musicales. On a des sculptures qui nous ont été prêtées par le musée du Louvre, par exemple. Et puis aussi, on a eu des prêts de musées du monde arabe. Donc, c'est des œuvres d'art plus rares. Et notamment, un très beau mur avec 54 dessins qui s'appelle « Icône du Nil », d'un artiste égyptien vivant au Caire et qui représente l'âge d'or du monde arabe. Il y a beaucoup d'extraits sonores, d'extraits audiovisuels, d'extraits de films, des archives musicales. Dans chaque salle, par exemple, on montre des diaporamas de Leïla Alaoui, cette photographe marocaine qui a été assassinée il y a 2 ans à Ouagadougou. On montre donc de nouvelles photos à travers un slideshow accompagnées de musique gnawa qu'elle écoutait, qu'elle aimait, qui faisait partie de son univers artistique. On a évoqué tout à l'heure l'attention accordée à un patrimoine musical en danger. On montre des photos aussi, une série de photos d'Augustin Le Gall qui présente le stambali. Le stambali, c'est une musique issue de l'esclavage qu'on retrouve en Tunisie. Et comme la musique arabe est souvent de transmission orale, cette musique est en train de disparaître malheureusement. Donc on a voulu vraiment attirer l'attention en espérant donner envie à des musiciens de s'inspirer de ce patrimoine et de le faire revivre.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI, nous sommes en compagnie de Véronique Rieffel, commissaire de l'exposition Al Musica sur les musiques et voix du monde arabe, exposition qui se tient jusqu'au 19 août à la Philharmonie de Paris. Vous n'hésitez pas à dire que la musique est un repère central dans les sociétés arabes. Qu'est-ce qui vous conduit à affirmer cela ?
C'est-à-dire que la musique ne fait pas partie d'une pratique isolée. Il n'y a pas un moment particulier où on écoute de la musique, c'est quelque chose qui fait partie d'un art de vivre global. Puisqu'il y a beaucoup de confusion entre monde arabe et monde musulman. Donc on m'a beaucoup demandé si c'était des musiques religieuses ou s'il y avait quand même quelques musiques profanes qui allaient être montrées. Bien sûr, le monde arabe, comme vous le savez, ne se réduit pas au monde musulman. Donc on a à la fois des musiques profanes, des musiques spirituelles, des musiques religieuses, des musiques qui s'écoutent et se créent dans des contextes familiales, mais aussi dans des grandes fêtes, ou aussi la musique contestataire. La musique a été parfois du côté du pouvoir, comme c'était le cas d'Oum Kalsoum, qui a vraiment apporté son soutien et largement contribué au rayonnement de Nasser. Et puis, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans les pratiques musicales du monde arabe, c'est plutôt du côté des musiques contestataires. On l'a vu largement après les mouvements révolutionnaires arabes, et ça continue aujourd'hui.
Est-ce que le développement de la musique dans le monde arabe a accompagné le développement de l'islam ? C'était une question par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur le fait qu'on confond souvent monde arabe et monde musulman, donc islamique. Mais malgré tout, est-ce que la musique dans le monde arabe s'est développée avec le développement de l'islam ?
Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on a toute une salle en fait qui est consacrée à cette question épineuse. Et il y a beaucoup de stéréotypes sur ce sujet, parfois intériorisés aussi, notamment celui qui tendrait à évoquer un interdit de la musique en islam, ce qui est faux. En fait, on montre justement que le prophète, de son vivant, appréciait la musique. Alors, tout le monde n'est pas forcément très heureux d'entendre ça, mais voilà, on montre des sources, justement, indubitables. Et puis, il se développe un art vocal en islam, à travers l'appel à la prière, qui fait vraiment l'objet d'un apprentissage. Certains muezzins rivalisent de beauté de la voix pour justement embellir, être à la hauteur du message divin. Donc il y a vraiment cette attention portée à l'art vocal, et puis on le retrouve aussi dans la psalmodie du Coran. Donc l'islam n'est pas réfractaire à la musique, et par ailleurs l'islam n'a pas interdit, la naissance de l'islam n'a pas interdit par exemple l'épanouissement d'une vie musicale très intense, y compris dans la péninsule arabique. C'est plutôt finalement à une période plus récente qu'on trouve des phénomènes comme ça d'interdiction, c'est plus politique qu'autre chose en fait.
Et il y a aussi dans toute cette région arabe ou à dominante arabe, d'autres cultures, par exemple culture berbère, kabyle, etc., qui elles ont la musique aussi dans leur culture et qui sont hors ce champ de l'islam.
Absolument. On montre dans l'exposition, c'est pour ça qu'on a le sous-titre de l'exposition El Moussika et voix et musique du monde arabe. C'est-à-dire on ne qualifie pas directement les musiques d'arabe puisque, comme vous le dites, il y a notamment un répertoire berbère très riche que l'on montre notamment dans une salle consacrée aux musiques de l'exil. On montre à quel point les Maghrébins qui sont venus en France tout au long du XXe siècle, beaucoup d'entre eux étaient des musiciens kabyles extrêmement talentueux et qui ont eu un grand succès aussi bien en Afrique du Nord qu'en France, et qui parlent justement beaucoup des thématiques de l'exil, etc. Donc on parle de ça, et puis bien sûr on parle aussi de chants de l'église syriaque ou encore du chant de la liturgie copte d'Égypte. Donc il y a effectivement tout ce foisonnement. Et ce qu'on montre aussi dans une salle qui est dédiée aux musiques de cour du temps des califats, des Omeyyades puis des Abbassides, et la cour qui s'est développée ensuite à Cordoue, les Omeyyades, qu'il y avait des orchestres qui jouaient ensemble de musiciens juifs et arabes. Donc on voit que les choses sont plus complexes que ça, et c'est intéressant de le voir par le prisme de la musique.
Et justement, puisque vous parlez de ces relations, par exemple, entre juifs et non-juifs, il y a ces musiques originaires d'Irak qui ont finalement été sauvées par des musiciens juifs.
Absolument. C'est important de le souligner parce que ce sont des choses, à mon avis, méconnues. Et je trouve que le mettre en avant, le partager, le faire savoir, ça peut quand même contribuer à aller à l'encontre de beaucoup de phénomènes de rejet et de stéréotypes sur ces questions toujours très sensibles.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Véronique Riffel, vous consacrez un style particulièrement choyé dans l'exposition, c'est la musique arabo-andalouse. Quelle est sa spécificité à cette musique ?
Alors c'est vraiment intéressant le cas de la musique arabo-andalouse parce que c'est une musique qui a voyagé du Moyen-Orient, enfin ce qu'on n'appelait pas encore le Moyen-Orient puisque c'est une notion plutôt construite par l'Occident, mais cette région du monde qui était plutôt située dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Syrie, l'Irak, etc. Donc c'est une musique qui a, justement pour des raisons politique et de développement aussi de l'empire musulman en dehors de la péninsule arabique. C'est une musique qui a voyagé. Il y a un personnage qui l'illustre très bien, c'est le personnage de Ziryab. Donc ce musicien, bon, semi-légendaire parce qu'on lui accorde tellement d'avancées dans la musique que c'est certainement un peu exagéré, mais ce personnage en tout cas qui est parti de la cour des Abbassides à Bagdad, qui en a été chassé parce qu'il faisait trop de concurrence à ses maîtres. Il a voyagé en Tunisie, puis il s'est retrouvé à Cordoue. Et là, en fait, il a transposé cet héritage de la musique des Abbassides. Il l'a vraiment confronté et enrichi de la musique qui se développait dans la péninsule ibérique de cette époque-là. Donc la musique arabo-andalouse. Et par la suite, au moment de la Reconquista, les musiciens à la fois juifs et arabes ont fui en Afrique du Nord. Et là encore, ce genre musical s'est enrichi encore des pratiques musicales du nord de l'Afrique pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui comme la musique arabo-andalouse. Donc c'est vraiment une musique riche de toutes ces influences.
Vous parlez régulièrement de la musique arabe, mais autrefois on parlait, il me semble, de la musique orientale.
Tout à fait.
À quel moment les choses ont-elles changé ?
Alors il y a vraiment un point de rupture ou en tout cas de changement important qui a été le congrès de musique arabe précisément du Caire en 1932, où pour la première fois on emploie le terme de musique arabe. Avant effectivement on parlait plutôt de musique orientale ou de musique d'un pays, musique palestinienne par exemple et autres. Et là en fait c'est évidemment très significatif. C'est à un moment où on est au moment de l'effondrement de l'Empire ottoman, au moment aussi de la montée des nationalismes et où va émerger plus tard le panarabisme de Nasser. C'est vraiment une volonté de revendiquer une forme de fierté arabe, donc de lui trouver des critères, puisque justement c'était une musique qui était un petit peu difficile à définir, puisque comme je vous disais, elle n'était pas notée, elle était essentiellement de tradition orale. Donc là, on se pose toutes ces questions. Est-ce qu'une musique arabe peut être jouée sur des instruments qui sont plutôt dans le corpus des instruments occidentaux? Est-ce qu'on peut jouer de la musique arabe sur un piano? Est-ce qu'on peut écrire une composition de musique arabe? Toutes ces questions ont été abordées, avec l'idée vraiment de définir une identité arabe à la fois moderne et en même temps authentique.
Et ça, ce sont des questions que se posent encore les compositeurs contemporains, comme par exemple Saïd Haddad ou Zad Moultaka.
Oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment cette idée de revendiquer le fait qu'on peut être contemporain et s'appuyer sur une spécificité arabe.
Ne pas être dans la tradition, mais se servir de la tradition pour explorer de nouveaux territoires.
C'est ça. Et c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve aussi dans les arts visuels, c'est-à-dire cette idée que il y a une modernité dans la création d'une esthétique vraiment avec des thématiques, avec une façon de peindre qui s'appuie sur des traditions anciennes mais qui les renouvelle en permanence. Et on retrouve la même chose dans la musique, effectivement.
Et aujourd'hui, le rap, le rock, l'électro, quelle est sa place dans la musique dans le monde arabe ?
Alors aujourd'hui, il y a vraiment une très grande variété de pratiques et de types de compositions. Effectivement, il y a des musiciens qui sont très influencés par le rap qui vient vraiment quand même des États-Unis. Mais il y a quand même toujours cette attention portée à un patrimoine musical arabe. Par exemple, on a vu l'émergence au moment des révolutions arabes en Égypte du maragan qu'on a traduit en français par l'électro-shaabi, qui est une musique qui s'appuie vraiment sur le shaabi, c'est-à-dire sur cette musique populaire égyptienne, et qui l'enrichit de sons électro, qui est joué sur des instruments modernes, etc. Mais voilà, donc il y a vraiment une pluralité d'expressions musicales aujourd'hui.
Et cette musique moderne, elle est en général contestataire ?
Pas forcément, mais encore une fois, les pratiques sont extrêmement diverses, les intentions aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi toute une tradition, par exemple, on parlait tout à l'heure du répertoire arabo-andalou. Pendant l'exposition, on présente aussi à la Philharmonie toute une série de concerts, d'ateliers, de pratiques musicales, etc. Et nous avons invité l'ensemble El Mawsili, qui est une école de musique arabo-andalouse installée à Saint-Denis. En Ile-de-France, et c'est très intéressant de voir cette école. Il y a des enfants, des jeunes, des gens plus âgés. Il y a vraiment cette transmission aussi, cette volonté de perpétuer cette musique très traditionnelle. Mais à côté de ça, et donc là, il n'y a pas vraiment de côté politique, outre le fait de revendiquer une identité arabe qui est en soi politique, mais sinon, il y a aussi, bien sûr, des chants contestataires très nombreux, notamment en Égypte, en Tunisie, en Palestine, bien sûr. Et en Algérie, oui, vu le contexte politique des pays arabes, c'est encore très présent.
« Merci Véronique Riffel, critique d'art. Je rappelle que vous êtes également fondatrice de l'Institut des cultures d'islam à Paris, au sein de la municipalité parisienne. Et vous êtes commissaire de l'exposition Al Musika, qui se tient à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août.
Merci beaucoup.
Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal.